Radio Okapi.
Le journal présenté par Pascal Masirika.
À la une de l'actualité, tête à tête ce jeudi à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue suisse Alain Berset. Au menu de l'entretien, les relations bilatérales et la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut ces jours-ci dans l'est de la RDC. Le choléra a coûté la vie à 23 personnes sur 560 cas notifiés dans le Haut-Katanga depuis octobre dernier. Pour l'instant, la prise en charge et la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène à observer sont en cours pour stopper la propagation de l'épidémie. Notre invité, c'est Monsieur Ndiya Amsini qui a conduit la délégation des notables du territoire de Mambasa auprès du leadership de la MONUSCO. Ils ont plaidé à l'occasion pour le redéploiement des casques bleus dans ces territoires afin d'appuyer les FARDC à protéger la population. Madame, messieurs, bonsoir. Tête à tête ce jeudi ici à Kinshasa entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue suisse Alain Berset. Au menu, les relations bilatérales et la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Au sujet de la mission et du mandat de la force régionale de l'EAC en RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo a précisé que tout est mis en œuvre pour accélérer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des rebelles du M23 qui prouveront leur nationalité congolaise. Ainsi fait, la force de l'EAC n'aura plus sa raison d'être en RDC. Il a indiqué qu'il n'est pas question par ailleurs d'un dialogue politique avec des agresseurs qui favorisent l'infiltration étrangère à tous les niveaux du pays. Le récit de Billy Van Lutumba.
Le chef de l'État congolais a martelé une fois de plus qu'il n'est pas du tout question d'un quelconque dialogue politique avec les agresseurs de la nation congolaise.
Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que c'est au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer. Infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo.
Alain Berset a pour sa part indiqué que son pays est plutôt engagé à soutenir la RDC en amenant de manière efficiente sur le plan international et au niveau du Conseil de sécurité la question ou le débat de l'agression de la RDC par ses voisins selon le rapport des experts des Nations Unies.
Le rapport de l'ONU a eu des mots très clairs sur la participation de pays voisins qui financent le groupe M23. Nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés évidemment à l'intégrité territoriale de tout pays.
Signalons que le président suisse va effectuer des visites de terrain à l'est du pays, en l'occurrence Goma, Bukavu, pour aller à la rencontre des déplacés de guerre victimes de l'agression du Rwanda et de leurs supplétifs du M23 ainsi que d'autres groupes armés.
Merci Billy Valutumba pour ces précisions. Montée de l'insécurité ces jours-ci à Goma. L'espérance de vie est très courte dans cette ville et cela doit cesser. Par ce cri de détresse, la société civile locale dénonce la recrudescence de la criminalité au chef-lieu du Nord Kivu. Le bilan dressé par les animateurs de la société civile à Goma fait état d'une dizaine d'assassinats signalés depuis le mois de janvier dernier. Ils mettent le gouvernement congolais devant ses responsabilités. Et pour cela, le maire intérimaire de Goma a convoqué aujourd'hui un conseil de sécurité élargi au chef de quartier. C'est ce que nous explique à Goma Denise Lukeso.
Le niveau de criminalité a tellement grimpé dans la ville de Goma. Chaque nuit, c'est au moins un citoyen, un travailleur, un marchand, un vendeur d'unité et des paisibles citoyens qui sont assassinés dans les quartiers au centre de la ville de Goma.
Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, illustre l'insécurité. Il était question au cours de cette réunion, entre autres, d'évaluer la situation sécuritaire dans la ville. L'objectif était de recadrer les actions des services de sécurité face aux multiples cas de cambriolage et dissipation des munitions récurrentes qui s'observent dans la ville. Le maire de ville, ad intérim, a demandé à la population, à travers les chefs de quartier, de dénoncer ceux qui troublent la quiétude. Cela va ouvrir les couloirs aux services de sécurité, de bien planifier des actions et dénicher les malfrats, dit Capin Kamande Faustin. Il a dit, je cite, « Aidez-nous à vous sécuriser, ne soyez pas plaintifs, participez plutôt aux efforts de renseignement », fin de citation, a insisté l'autorité urbaine. Le commissaire Capend indique des dispositions qui, du reste, sont confidentielles, sont prises pour réguler cette insécurité. La société civile de Goma dénombre 13 cas d'assassinat depuis le début de cette année. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et puis, l'appel à une journée ville morte ce jeudi à Goma n'a pas été suivi. Les mouvements citoyens dont la Véranda Mutanga attendait aujourd'hui réclamaient la libération des présumés réservistes communément appelés Wazalendo qui ont été arrêtés par les FARDC hier à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Toutes les activités tournent normalement, comme l'explique Gabriel Wamenya.
Sur l'axe principal qui part du rond-point Bédégel traversant une partie du centre-ville et les quartiers périphériques de Ndosho, Mugunga et Lac Vert situés au sud de la ville, toutes les activités ont ouvert. Magasins, boutiques, stations-service ainsi que les petits marchés ont fonctionné. Dans les quartiers commerciaux et le plus surpeuplé Birere, l'ambiance était la même. Devant les portes de plusieurs magasins, on pouvait apercevoir des colporteurs en attente pour s'approvisionner en marchandises et des trottinettes en bois communément appelé Tchoukoudou, prête à transporter des marchandises d'un lieu à un autre à travers la ville. Dans notre ronde, nous avons vu des longues files de clients devant quelques banques et maisons de transfert d'argent pour effectuer des opérations financières. Dans les quartiers les plus chauds au nord-est de la ville, à Majengo par exemple, la circulation est restée fluide jusqu'en fin de la matinée. C'est au niveau du quartier Virunga où nous avons observé un dispositif de la police qui était aux prises avec quelques manifestants qui voulaient justement barricader la chaussée principale près du marché central. Les quelques vendeurs du marché central de Virunga qui hésitaient d'ouvrir leurs activités dans la matinée ont finalement étalé leurs marchandises. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Et puis en Ituri, les produits de première nécessité sont devenus rares dans une dizaine de localités minières du territoire de Djougou. Et pour ceux qui sont encore disponibles, les prix ont doublé voire triplé. C'est la conséquence en tout cas de la suspension depuis plus de mois du trafic sur le tronçon Inga Barrière Mongualou suite aux exactions commises par les miliciens de la Godeco qui ont coûté la vie à environ 20 passagers. Reportage à Bounia d'Isacré Moyopé.
Depuis la prise d'otage suivie du meurtre des 17 passagers il y a un mois et de la mort des deux chauffeurs des taxis la semaine dernière à Bambou, à 35 km au nord de Bounia, aucun véhicule n'entre ni ne sort de Mongualou. Selon des sources locales, les stocks de marchandises dans des magasins et boutiques sont presque épuisés. Conséquence, les prix des produits de première nécessité ont doublé, voire triplé. Selon les bourgmestres de la commune de Mongualou, un sac de riz de 25 kg est passé de 50 à 100 000 francs congolais. Une bouteille d'eau qui coûtait 2 000 francs congolais se vend actuellement à 5 000 francs congolais. Jean-Pierre Bikilisende estime que si rien n'est fait dans l'urgence, la situation sera pire dans plusieurs localités minières dans les territoires des Djougou.
En tout cas, il n'y a pas de trafic entre Iga Barrière et Mongualou. Ça fait deux semaines qu'on n'est plus ravitaillé. L'effet de stock que nous avions ici est en train de se priver. Naturellement, quand le stock devient de plus en plus rare, la barrière devient aussi de plus en plus cher. C'est ce que nous observons. Depuis deux semaines et demie, sans trafic, sans ravitaillement, c'est un problème.
Les acteurs de la société civile et les transporteurs se sont réunis mercredi à Bounia pour évaluer les conséquences de la suspension forcée des trafics sur cette tronçon. Ils espèrent que le gouvernement provincial interpellé mettra tout en œuvre pour un retour à la normale sur cette route. Bounia, Isaacre Moyope, Radio Okapi.
L'insécurité est également marquée à Kindu, chef-lieu du Maniema, par l'incursion des bandits armés dans plusieurs maisons où ils volent et violent des femmes. La population crie au secours et s'interroge sur les biens fondés du couvre-feu instauré dans cette ville de 21h à 5h du matin. Pour en parler, retrouvons à Kindu Florence Kizalunga.
Dans la nuit du 11 au 12 avril, des hommes armés ont visité près de 5 maisons et ont violé 3 femmes. La chef de division du genre famille et enfants appelle à la restauration de l'autorité de l'État dans la ville. Depuis le 29 mars, Régine Kapunga indique que 27 femmes ont été violées dans la ville de Kindu.
Depuis que nous avons lancé le mois de la femme jusqu'à ce jour, 27 cas de femmes victimes du viol dans la ville de Kindu. Voilà, vraiment, nous sommes indignés et nous voulons que l'autorité de l'État soit rétablie dans la province du Maniema.
Du côté de la police, on déplore aussi cette situation. Colonel Saïdi Madjaliwa.
Nous sommes aussi préoccupés par cette situation parce que les criminels, ces derniers temps, lorsqu'ils font incursion, ils prennent les biens de valeur et en fin de compte, ils violent les femmes, voire même les filles mineures. Nous sommes à pied d'œuvre, en train de voir dans quelle façon où nous pouvons mettre la main sur ces malfrats afin qu'ils puissent répondre un jour de leurs actes devant les juridictions compétentes.
Parmi ces maisons visitées figure celle de notre collègue Maurice Otamwe, directeur de la radio Mapon Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Santé à présent. Le choléra plutôt a coûté la vie à 23 personnes sur 560 cas notifiés dans plusieurs zones de santé de la province du Haut-Katanga depuis le mois d'octobre 2022. Le ministre provincial de la Santé publique affirme que la prise en charge et la sensibilisation de la population sous les mesures d'hygiène à observer par tout le monde sont en cours pour stopper la propagation de l'épidémie. Joseph Sambi Boulanda est au micro de Jean-Gandou Kabongo.
L'épidémie dans l'axe Kambove-Likasi a été vite maîtrisée avec la politique de quadrillage. On a donné des intrants, mais il y a encore la zone de santé de Mufunga dans le territoire de Mitwaba qui a eu à notifier des cas. Puis c'est le tour de Kasenga, puis Kachobwe dans l'axe Nkole et puis Kilwa, pas Kilwa centre mais en périphérie et puis jusque Pweto. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a au moins 7 zones de santé qui sont en épidémie, mais nous intervenons et l'OMS est là. Aujourd'hui par exemple, nous sommes à 563 cas avec 23 décès depuis le début de l'épidémie. C'est plus l'axe Luapula-Mwero, la zone lacustre tout ça, puisque les gens prennent l'eau de la rivière ou l'eau du lac. Une fois en amont, c'est infecté, puisque dans les camps de pêche, d'autres vont à celle en brousse ou alors dans les cours d'eau. Et c'est une maladie, comme on dit, de main sale qui est devenue presque endémique, mais il y a beaucoup d'efforts dans le sens d'éradiquer cette maladie.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, 3 morts, 260 maisons, un centre de santé et 36 hangars détruits. C'est le bilan dressé par la nouvelle société civile congolaise à la suite d'une démolition policière des maisons au quartier Singa Inga de Biboua dans la commune de Lancélé, ici à Kinshasa, depuis le 31 mars dernier. Pour l'instant, 1480 personnes victimes de cette opération sont actuellement sans abri. Explication de Jeff Ngoy.
Je suis enseignante à l'EP1 Mombele. Je suis victime. Talabanda, mi balé au chambre, na la la libanda na ba koko yo.
Les policiers ne touchaient partout et me demandaient d'écarter les jambes. J'ai refusé et mon père avec.
Il s'agit d'un quartier des enseignants obtenu d'un chef traditionnel. La démolition est jugée méchante et sans motif ni préavis. Elle s'est accompagnée de violences et viols présumés. Témoignage.
On n'a pas été notifié. Subitement comme ça, nous avons vu des engins avec des bains de Koulouna, avec des policiers. C'est un terrain qui appartient aux enseignants qui sont entre les mains des chefs coutumiers.
Le président de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, dénonce la violation des droits humains.
Quelle est cette procédure qui doit se faire la nuit? À 2h du matin, on vient chasser les gens, les filles sont violées, les biens sont confisqués. C'est ça la sécurité des personnes? La nouvelle société civile congolaise appelle au gouvernement de la République de venir en aide avec des tentes à cette population.
Selon les victimes de cette démolition, leurs maisons sont couvertes de certificats d'enregistrement. Elles sont détruites sans qu'on sache de qui vient l'ordre, pendant qu'elles estiment avoir gagné un jugement depuis 2015 au TGI d'Njili contre un kidam.
Restons ici à Kinshasa, où la commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale plaide pour le renforcement de la cohésion nationale en cette période préélectorale. Elle a organisé hier un atelier de plaidoyer pour soutenir la proposition de loi endossée par le député national Gary Sakata contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. La rencontre d'hier a été organisée en partenariat avec le PNUD et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Des précisions avec le président de cette commission, Simon-Pierre Yanonio, le dit à Michel Kifinagoy.
Ce pays ici a besoin de cohésion nationale. Nous devons éviter tout ce qui peut diviser le peuple congolais. Surtout à l'approche des élections, il est important que nous puissions, nous comme représentation nationale, doter le pays d'un cadre légal qui manque. Parce que les textes qui existent aujourd'hui datent de très très longtemps et ce sont des textes qui mettent l'accent sur la répression. Or, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur la prévention pour éviter que les drames arrivent, des drames de xénophobie, de tribalisme et autres. Donc l'atelier avait pour objectif de sensibiliser les députés et aussi de présenter les grandes articulations de ce texte-là et enfin de voir comment comment nous pouvons organiser un lobbying avec la société civile, avec les députés en interne, pour que la proposition soit fixée au débat général et que le processus législatif puisse aboutir avant la fin de cette législature ici, parce que le pays a grandement besoin de ce cadre légal-là.
Actualité internationale.
À Madagascar, Houssine Arfa, ancien conseiller en sécurité, se présentant comme le témoin gênant d'infractions imputées à l'ex-président malgache, a réclamé ce jeudi matin la désignation d'un juge d'instruction parisien pour enquêter sur les conditions de sa détention à Antananarivo et de son évasion en France. Selon sa défense, Arfa a déposé une première plainte à ces sujets peu avant son arrivée à Paris début 2018, puis une nouvelle plainte déposée en avril 2022. Au Maroc, pendant ce temps, un détenu djihadiste soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'un policier s'est suicidé ce matin dans sa cellule. Le chef de l'administration pénitentiaire affirme à la presse que ce détenu présumé affilié au groupe djihadiste État islamique a été arrêté le 15 mars dernier avec deux autres hommes. Ils ont tous trois été soupçonnés d'avoir assassiné un policier dont le corps calciné avait été retrouvé début mars près de Casablanca. Et puis, l'Allemagne va légaliser l'usage du cannabis à des fins privées et dans certaines limites. Une des réformes de la société les plus symboliques du gouvernement doit entrer en vigueur en 2023. Le ministre de la Santé publique a présenté ce jeudi les grandes lignes de son projet.
L'invité.
Notre invité, c'est Ndiya Amsini, qui a conduit la délégation des notables du territoire de Mambasa auprès du leadership de la MONUSCO. À l'occasion, ils ont plaidé pour le redéploiement des casques bleus dans ce territoire afin d'appuyer les FARDC à mieux protéger la population locale. Il s'entretient avec Isaac Remoyope.
Honorable Ndiya Amsini, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans les territoires de Mambasa?
Nous sommes venus rencontrer la MONUSCO. C'est un projet qui date de très longtemps parce que depuis que Mambasa a connu des secousses sécuritaires, des ADF, la question des ADF à Loloa, Baha, Lumalisa, 25, ça ne nous a pas vraiment enchantés. C'est comme ça qu'on a rencontré la MONUSCO pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la situation sécuritaire de Mambasa.
Vous avez quand même des propositions de solutions par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone.
D'abord, la première des choses, c'est que la population de Mambasa, à son temps, quand la situation commençait à se détériorer chez nous, la population n'était pas d'accord de recevoir la MONUSCO. C'est comme ça que nous sommes dit, non, nous devons travailler, sensibiliser notre communauté. La MONUSCO est venue en appui au gouvernement congolais. Et donc, nous, en tant que communauté, nous n'avons pas à nous opposer à la MONUSCO. Bien sûr, il y a eu des gens, des intoxications, et comme quoi la MONUSCO était des mèches avec les ADF. Ça, c'était une fausse information. La population n'était pas seulement informée. La MONUSCO est là pour la sécurité de la population. Nous voudrions à ce que la MONUSCO puisse s'installer à Loloa, progressivement à Lumalisa, parce qu'il y a une question régulièrement à Lumalisa. Nous savons qu'il y a les militaires à Lumalisa. Mais aussi, avec l'appui de la MONUSCO, je crois qu'on peut faire quelque chose. Lumalisa, il y a toujours de l'incursion à ce niveau-là. Et nous pensons que si les FARDC et la MONUSCO ont travailler ensemble, on peut diminuer vraiment cette incursion et même arriver même à rétablir la paix en territoire de Mambasa.
Mais est-ce que pour le moment, est-ce que vous avez déjà sensibilisé la population pour recevoir le casque bleu dans la zone? Donc pour dire, est-ce que le terrain est déjà balisé?
Nous allons descendre à Mambasa, dire à nos communautés que ça ne sert à rien de chercher le pouls dans la tête d'un chauve. La MONUSCO est venue nous aider, nous inciter, nous appuyer le gouvernement congolais. Et donc, il faut que la population accepte la MONUSCO, que la MONUSCO arrive chez nous. Et la MONUSCO travaille de commun accord, main dans la main avec les FARDC, pour rétablir la paix dans la zone Mambasa-Loloa.
Les plaidoyers, c'est seulement pour la chefferie de Baïbla-Bakwanza ou bien pour tous les territoires de Mambasa?
Nous allons progressivement, parce que d'abord, c'est la chefferie de Baïbla-Bakwanza qui était vraiment touchée par ces événements malheureux. Nous avons perdu. Nos villages sont déserts aujourd'hui. Et donc, la population doit accepter que l'on commence par la chefferie de Babela Bakwanza, qu'on remette un peu la circulation, la mobilité de la population dans cette zone-là, et après voir dans des zones, par exemple, dans la chefferie de Babela Babombi, où aussi il y a des problèmes. Et pourquoi pas dans toute la zone, pourquoi pas tous les territoires de Mambasa.
Et quelles sont les actions concrètes que vous attendez de la MONUSCO?
L'action concrète, nous voulons à ce que la MONUSCO puisse s'installer dans des zones. Par exemple, vous avez à Lumalisa, il y a une jonction. Les gens quittent le Nord Kivu pour déboucher directement à Lumalisa. Et ça, c'est les ADF qui circulent cet endroit-là. Donc, nous devons placer une position à Lumalisa pour stopper cette hémorragie des ADF au niveau de Lumalisa. Et même à Lolwa, vous avez suivi dernièrement dans la périphérie de Lolwa, il y a eu des morts d'hommes. On a eu beaucoup de gens qui sont morts du côté dans la forêt là-bas de Lolwa. Si on a la présence de la MONUSCO là-bas, nous pouvons quand même diminuer cette incursion à répétition qui s'est faite chaque jour avec les ADF Nalu.
Alors, quelle a été la réponse de la MONUSCO par rapport à votre requête? Parce qu'il semble que c'est une ancienne requête qui date de 3-4 ans.
C'est une ancienne requête. D'ailleurs, nous avons dit, nous avons présenté notre désolation parce que nous avons posé les problèmes pendant que la situation était très grave. Mais on n'a pas réagi à ce moment-là. Mais bon, Dieu merci parce qu'aujourd'hui, la MONUSCO nous a appelés pour que nous puissions échanger encore et voir qu'est-ce que nous pouvons faire afin que nous puissions quand même lever les défis de la paix dans cette entité-là. Les casques bleus sont déjà prêts pour se déployer sur le terrain. C'est important. Pour que la population revienne dans leur milieu naturel.
Certaines personnes pensent que de plus en plus, les ADF sont entrés dans l'air en profondeur et que la situation risque de se dégrader. Donc vous pensez que cette présence de la MONUSCO peut stopper quand même cette progression?
Oh oui, ça peut nous aider à stopper l'incursion des ADF dans notre entité.
Merci beaucoup.
Merci bien.
C'était l'invité de Radio Kapi, Monsieur Ndi Amsini, qui est notable de Mambasa, qui a conduit la délégation de son terroir auprès du leadership de la MONUSCO. Il a été interviewé par Isaac Remoyope. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.